With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, l'hôte de ce podcast, et cette semaine, je vous présente un épisode singulier, thématique, plus que personnel, dédié au thème de la décoration dans les restaurants. Cet épisode est né d'une rencontre entre À Poil et Selency, mon site favori pour chiner des pièces vintage, et à l'heure où la décoration ne compte plus du tout pour du beurre dans les restaurants, nous avions envie d'explorer ce thème. Début décembre, nous avons enregistré en live dans les bureaux de Selency, en compagnie de Charlotte Cadet, la fondatrice du site, Dorothée Mellison, designer et architecte d'intérieur, et de deux restaurateurs dont j'apprécie l'univers, Simone Tondo, chef et aubergiste de Racine, et Théo Pourria, restaurateur et copropriétaire de Septime, Septime La Cave, Clamato et Dunil. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Donc pour commencer, à chacun, je vais vous demander la déco d'un restaurant. Ça compte beaucoup, un peu, beaucoup, passionnément. Dorothée, si tu veux commencer.
La déco d'un restaurant, bah, je veux dire, ça compte énormément parce que ça me fait vivre. Mais en soi, on parle beaucoup maintenant d'expérience globale sur tous nos projets. Et évidemment, tout compte. Je pense que les gens vont au restaurant pas que pour bien manger maintenant, mais pour vivre une vraie expérience à travers tout. Donc la décoration compte énormément, évidemment l'assiette, mais l'art de la table compte, la musique compte, un peu tous les différents supports oui comptent.
Charlotte,
je rejoins ce qu'a dit Dorothée, évidemment je ne peux que qu'affirmer ce propos. Je pense que effectivement au-delà de l'expérience, c'est aussi l'unité dans un concept et dans un restaurant. C'est on vient effectivement déguster, tester, découvrir, et je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on a dans l'assiette et ce que l'on vit aussi par ailleurs, et qui est apporté entre autres par la décoration, effectivement.
Théo, t'en penses quoi?
Pareil. vraiment à peu près pareil. Je rajouterais juste que ça peut être une aussi non décoration, et que le bar tabac du coin de la rue, s'il est d'époque et qu'il est sublime, on n'y touche pas, et puis la déco y participe pour beaucoup.
C'est hyper compliqué de venir après trois commentaires, donc non, mais je pense que c'est très important, mais surtout ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en condition le client de se sentir bien. Donc oui, la déco, elle est très importante, mais la déco, elle est quand même le trait d'où elle part, plein d'autres choses, effectivement. Au moins qu'on trouve un lieu dingue, comme Théo l'a précisé. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir un lieu qui était chargé un peu d'histoire en termes d'espace. Donc j'ai dû faire vraiment peu par rapport à ce qu'elle fait, elle, quand peut-être ils ouvrent des affaires avec... des groupes, ou en solo, ou Théo, dans les ouvertures qu'il a fait d'Azero, parce que Clamato, par exemple, c'est une création. Donc, imaginer d'un rien, c'est pas évident, je pense.
Est-ce que la cuisine doit être en phase, est-ce que la décoration plutôt doit être en phase avec la cuisine, puisque toi, t'as eu trois établissements, Roseval, ouais. Tondo, ouais. Et Racine, la décoration est différente à chaque fois, est-ce que tu t'adaptes?
Bon, après, il y a des répétitions, si on regarde bien dans le détail. Il y a toujours des fleurs, il y a toujours des nappes. Pas beaucoup, parce que ça coûte très cher. Ouais, non, parce que c'est parce qu'on regarde pas dans l'historique, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a... J'essaie toujours de faire des lieux plutôt comme des salles de maison que des restaurants. Après, on peut pitcher à droite, à gauche. J'ai piqué des choses à lui, à elle, à tout le monde. Ici, je pense à Thomas. Maintenant, je regarde, il y a une dame de là derrière qui fait des choses sympathiques aussi, donc je pique un peu où je peux, Sabrina. Vraiment, hein, je regarde un peu, je connais tous les comptes Instagram de tout le monde, donc c'est la curiosité qui nous amène à faire des choses intéressantes, je pense. Donc.
Et Théo, est-ce que vous adaptez la cuisine, enfin la déco à la cuisine?
Non, oui et non. C'est-à-dire que ça, nous, c'est toujours des créations, à part du Nil où c'est une vraie reprise. Mais c'est plus dans un souci de cohérence. Donc quand on... peut-être le plus illustre, c'est Clamato, où on récupère un vieux garage où, en effet, tout est à récupérer, un garage de scooter. Et où on décide d'ouvrir des huîtres derrière un comptoir au début de faire un oyster bar et où on se rend compte petit à petit, enfin c'est comme essayer de démêler une pelote quoi. Ok, on pourrait faire ça, puis un voyage te dit ah tu pourrais mettre ça en carrelage. Ah oui attends, et en fait c'est plus du tout un bar à huîtres, ça devient un restaurant. C'est Bertrand qui se m'a fait penser des menus. Enfin bon c'est un peu ça démarre toujours de quelque chose, parce que si c'est démarré scratch, c'est ça, je sais pas comment vous faites là, vous, parce que vous, c'est votre métier, nous, c'est pas du tout notre métier, hein, petite précision. Je serais bien embêté de démarrer de absolument rien du tout, quoi. Quand je dis Clamato, il y avait rien, il y avait un plateau de 100 mètres carrés, mais il y a quand même des volumes, et puis c'est un plateau de 100 mètres carrés. Faire des hôtels en ayant quasiment zéro contrainte et en devant tout créer, pour moi, ça serait impossible.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour Clamato? Vous vous êtes dit, on va faire un oyster bar et au début, juste un comptoir?
C'est vieux, hein.
Enfin, vous avez commencé par quoi?
On a commencé par... Ben si, on a commencé par le fait qu'il n'y a pas d'extraction chez Clamato. Je suis en train de chercher, mais en fait, c'est quand même ça le constat. Non, on n'a pas d'extraction. Donc, il y a beaucoup de restaurateurs dans l'assemblée, mais pas d'extraction, c'est compliqué pour faire un restaurant. À part un truc qui s'appelait Cru, à l'époque, où on mangeait que du cru dans le Marais. Je crois que c'était Julien Fouin qui avait fait ça. Et donc, sans refaire ça, ça partait du constat qu'on ne devait pas faire de cuisson. Ou en tout cas, très très peu. Donc, donc viande, c'est limité. Donc, poissons, coquillages, crustacés, etc. Quoi.
Et ça vous a inspiré pour faire le lieu, pour faire la décoration?
Et après, pour la déco, moi, je fais un voyage en Californie qui m'inspire beaucoup à ce moment-là. Donc, tout ce qu'on voit là, désert... les hôtels de là-bas, les endroits complètement et puis acide, vif, coloré. C'était aussi pensé comme le négatif de Septime. Septime, il y avait trois semaines de réservation, le truc imbookable, le menu qu'on déroule en 8 étapes, etc. Là, c'était vraiment le contre-pied. On voulait un truc où on mange au comptoir, sans réservation, des petites assiettes où on mange, on recommande, on machin, plus punchy, plus rythmé, plus frais, quoi. Enfin, pas que Septime soit glauque, voilà, un truc plus... le contre-pied.
Charlotte, est-ce qu'il y a un style, enfin une spécificité française dans la déco des restaurants?
Je sais pas s'il y a un style ou une spécificité. En tout cas, le lien entre tous, c'est, je pense, une vraie attention et un soin porté à la décoration. Je trouve que... il y a une âme, peut-être, je dirais, à Paris en tout cas, et dans beaucoup de vieilles enseignes aussi en France. Je pense que c'est ce qui ressort peut-être davantage versus d'autres pays, mais je ne sais pas s'il y a je dirais pas qu'il y a un style, quoi.
T'as l'impression qu'il y a un style parisien, français?
Je pense qu'il se passe quelque chose ces derniers temps, parce que moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que les restaurants étaient beaucoup moins décorés qu'aujourd'hui. C'était beaucoup les restaurateurs qui faisaient eux-mêmes leur déco et que maintenant ils font quand même beaucoup appel à des archis pour les aider. Et je pense que c'est un truc qu'on a un peu repris des Anglo-Saxons, qui étaient quand même très forts sur des lieux parfaitement finis, que ce soit la déco, que ce soit le menu, que ce soit le tablier du serveur, la cuisine ouverte, tout. Ils avaient beaucoup bossé là-dessus, donc je pense qu'on s'est rendu compte que c'était cool de s'y mettre un peu aussi. Après, en termes de style, je sais pas, comme toujours un peu avec les Français, on est un peu à la bourre et quand on prend le truc, on le fait vraiment. Donc c'est vrai que maintenant, il y a plus beaucoup d'endroits à Paris où, encore une fois, il y a des lieux qui sont anciens et qui sont naturellement intéressants et riches. Mais c'est vrai que tout le monde porte vraiment beaucoup attention aux lieux qu'ils créent maintenant, même des gens tout jeunes qui montent leur premier concept de sandwicherie. C'est un vrai sujet, ils nous appellent, oui, la déco. Voilà, donc même avec des tout petits budgets, c'est vrai que les gens sont devenus assez sensibles à ça. Et du coup, est-ce qu'il y a un style parisien? Le style, c'est de décorer ces endroits, on va dire.
Qu'est-ce qui est important qu'on conçoit la déco d'un restaurant?
Je pense qu'après, chaque archi a un peu son truc. Nous, on est beaucoup dans la narration. Donc, on va essayer d'écrire un peu des histoires, ce qui nous permet aussi de faire des lieux dans les mêmes quartiers, assez différents les uns des autres. Et pour ça, on fait beaucoup de recherches. Donc, on va faire des recherches sur l'histoire du quartier, qui habite là, pourquoi cet immeuble est arrivé ici, quel architecte l'a construit. Et on essaye de s'intéresser. Moi, je suis designer industriel à la base et je reprends beaucoup ça au quotidien. C'est-à-dire qu'on essaye d'écrire un concept. Donc, à qui on s'adresse, pourquoi, comment les gens vont utiliser ce lieu, quel type de cuisine on va servir, quel type de service il va y avoir. Et même la forme du lieu en elle-même, souvent, nous aide pour les concepts. Quand on a fait l'hôtel Panache à côté, qui était un hôtel complètement triangulaire, où il fallait faire entrer des chambres d'hôtel carrées, avec des lits carrés, des bureaux carrés, des placards carrés, c'était assez challenging. Mais du coup, on en a fait un peu comme le fait de ne pas avoir d'extraction, on en a fait un espèce d'atout pour essayer de dessiner des choses différemment, en faisant des jeux de miroirs, en redessinant des meubles triangulaires. Voilà, donc à chaque fois, on part vraiment du contexte dans lequel on est. Moi, je crois beaucoup à l'âme des choses, à l'âme des lieux, de ne pas arriver avec trop d'idées préconçues, mais plutôt d'essayer de s'adapter. Les immeubles étaient là avant nous. Et à partir de cette petite recherche, on écrit quelques lignes, quelques phrases qui vont nous driver quand on dessine les meubles, quand on fait l'aménagement d'intérieur, quand on va choisir les motifs et les couleurs.
Est-ce que est-ce qu'il y a des choses à savoir sur l'optimisation de l'espace, tu vois, dans les restaurants, le nombre de tables au mètre carré, ce genre de choses.
Ouais, ça souvent on nous l'impose, on nous dit pour être rentable, il faudrait avoir tel nombre de couverts et aussi la cuisine en général, on peut pas trop y toucher, donc on nous dit il nous faut 45 mètres carrés, 60 mètres carrés cuisine, et après on optimise. On a une grande chance à Paris quand même, c'est que les gens sont prêts dîner dans un restaurant en étant collé sur une banquette avec quelqu'un d'autre qu'ils connaissent pas, d'avoir des toutes petites tables microscopiques et de devoir gêner tout le monde pour passer. Et ça, c'est une culture très française qui s'exporte beaucoup, mais qui est ici assez géniale pour nous pour optimiser les lieux et pour réussir à faire des restaurants rentables dans des toutes petites superficies, ce qui, imaginons l'équivalent aux États-Unis, serait impossible parce que tout est un peu plus large et les gens ont besoin de plus d'espace.
En parlant de petites surfaces, ça me fait penser donc à Racine. Ah oui, et de manger les uns sur les autres, mais c'est ça qui est sympa.
Non, c'est différemment grand. c'est le point de vue, c'est important dans la vie, c'est juste.
Comment t'es arrivé dans ce lieu ancien? Comment tu l'as investi?
Parce que c'est Pierre-Jean Coul, le créateur vraiment de l'espace. Parce que finalement, il a chiné, si on peut dire ça. Et il a aussi un peu aménagé. Après, c'était dans une autre phase d'époque, donc c'est un peu vraiment très chiné. Il y avait vraiment pas d'intervention en termes des pièces ou quoi que ce soit. C'était vraiment pris, j'aime, donc je le mets dedans. Donc c'était marrant, mais avec le temps, il est devenu, à mon point de vue, en discutant même avec lui, un lieu un peu noir. C'était un peu sombre, il manquait des détails que moi, je pense encore. Je veux pas dire que j'ai eu raison, mais je trouve que dans un espace si petit, en fait, il faut intervenir avec, dans mon cas, des couleurs ou des tonalités. Donc la nappe, oui, elle est rentrée parce que j'aime les nappes, mais effectivement, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a ajouté de la lumière. Aujourd'hui, quand tu rentres, les jeux de lumière avec la nappe, ça crée en fait cet accès qu'on n'a pas dans les fenêtres, des fois. Parce qu'on n'a pas le soleil non plus 365 jours par an, donc... Et l'espace, on s'adapte, on a levé des tables, même si vous pensez qu'on en a ajouté. Je vous regarde tous. Non, on a levé des tables et petit par petit, on réfléchit en vivant les lieux, comme la maison, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou pas. Donc, ça prend beaucoup plus de temps, effectivement, par rapport à une création avec beaucoup plus de compétences. Mais on s'adresse toujours à des gens pour se faire aider. Je l'appelle si je me manque des choses. C'est vrai, c'est arrivé.
Tu chines beaucoup aussi.
Ouais,
des assiettes.
J'aime parce que mes grands-parents, ils faisaient le même travail de Dorothée. Donc, moi, je suis un archi raté. Et donc, voilà, je suis né là-dedans. C'est arrivé plus tard. Voilà.
Théo, toi qui as eu l'expérience de reprendre un lieu qui existait déjà et de créer un espace, qu'est-ce qui est le plus facile?
C'est difficile de comparer parce que Septime Lacave, ça fait 20 mètres carrés. Donc, entre une création de 20 mètres carrés et d'une île qui fait 8 hectares, une reprise de 8 hectares, je sais pas lequel je préfère, mais...
Au niveau décoration, enfin, comment...
Au niveau de déco, c'est plus marrant de créer, c'est plus marrant de récupérer un endroit, c'est plus marrant de faire des septimes Lacave, Clamato ou septimes que d'une île. Mais ça s'inscrit à un moment différent de l'histoire de chacun et tout. Donc, d'une île s'est présentée et en l'occurrence, on n'y serait jamais allé. C'est à 150 km de Paris. On n'y serait jamais allé pour faire une création. On n'habite pas là-bas. Notre vie, elle est à Paris avec Bertrand. Et donc, c'était trop contraignant, trop difficile de créer toute pièce le truc. Donc, et l'ADN était assez similaire. Il y avait un truc qui nous parlait, qui s'inscrivait bien dans l'ensemble des restaurants. Donc, c'était cohérent. Après, comme dit Dorothée, ce qui nous amuse, c'est de d'écrire des histoires différentes. C'est-à-dire que demain, de refaire un Clamato rive gauche, par exemple. Non, c'est pas en cours justement, parce que on y pense souvent, et en fait,
vous avez pas.
Non. Ouais. Donc, on a vraiment des trucs. Ce qui est drôle, c'est de faire des choses très différentes, d'avoir différents terrains de jeu.
Mais comment on fait pour donner une âme à un restaurant? Pour, tu vois, par exemple, pour Septime, vous êtes parti de rien quand même. Enfin, vous avez tout créé. Comment vous y êtes pris?
J'ai combien de temps là pour répondre? Non, c'est hyper difficile. Septime, c'est deux boutiques à la base, avec la cloison et la baie vitrée au milieu, là, pour ceux qui voient à quoi ça ressemble. Je sais pas. Là, c'est le premier. On est... On dort sur le chantier et tout, hein. On est là-bas 20h sur 24, on étudie chaque fait et geste des maçons, des menuisiers, des trucs, on met tout ce qu'on aime dedans et on donne tout, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de recette miracle, si ce n'est de prendre le temps, quoi, et de savoir un peu où on veut aller.
Est-ce qu'il y a des matières, du mobilier qui font que les clients se sentent bien, vous avez l'impression?
Dorothée, c'est son métier, encore une fois. Nous, c'est pas le nôtre. Donc, nous, notre force, c'est de se mettre à la place du client. Et on travaille dans les restaurants tous les jours, donc c'est de pouvoir se figurer, on rentre dans le déroulé du client, quoi, de l'entrée à la sortie. Donc, est-ce qu'on se mettra à sa place? Est-ce qu'on s'asserrait sur ses chaises? Quelle lumière on veut? Quelle musique on veut écouter? Comment est-ce qu'on veut que les serveurs présentent le menu? Tout ça, c'est des questions qui se posent, mais c'est plus, bon, déjà, il n'y a pas de déco inutile chez nous. Enfin, vraiment, on pense qu'il faut que la déco soit utile ou qu'elle soit incarnée ou qu'elle serve à quelque chose. Et après, non, vraiment savoir où on va, quoi. Et être engagé, pas être tiède, fade ou hésiter ou faire des trucs, d'essayer de. Faut vraiment savoir où on va, quoi. Mais on peut aller dans un truc. Pas forcément très coloré, ou on peut aller dans un truc pastel, mais on y va à fond, ou on est, c'est, voilà.
Charlotte, comment on peut rendre un lieu, donner une âme à un lieu grâce à des matières, ou grâce à des matériaux, du mobilier?
Je pense que ce qu'on voit beaucoup, c'est quand même le retour à des choses, à de l'ancien, qui, par définition, a du coup déjà une âme, a déjà une authenticité, va apporter de la chaleur. Je pense qu'on va le retrouver dans des matériaux comme le bois, et on l'utilise beaucoup pour les assises, pour les tables, etc. Je pense que ça va jouer beaucoup, ça va se jouer beaucoup avec le travail de lumière aussi. L'éclairage est assez primordial pour se sentir bien à l'aise dans un lieu, et je pense qu'il faut vraiment y passer du temps. Et après, je sais pas si je rejoins complètement Théo sur le point, en tout cas, de parfois il y a des choses qui sont un peu gratuites, au sens où elles n'ont pas une utilité pratique, mais elles ont un sens, justement, pour contribuer à l'histoire, à l'expérience que l'on veut faire vivre à ses clients. Et c'est là qu'effectivement, des rideaux, parfois ils n'ont pas forcément une vocation protégés d'un éclairage particulier, ni à forcément à tamiser, quoi qu'ils peuvent contribuer aussi à tamiser un peu le son, à insonoriser un petit peu, mais ils sont là aussi pour apporter un peu de chaleur, donc à travers aussi du textile et des choses un peu gratuites, on peut aussi créer quelque chose d'un peu plus envoûtant ou un peu plus entraînant.
Tu disais aussi, il y a des matières qui absorbent le son, par exemple.
Ouais, bah je pense qu'effectivement, en tout cas avec le, en jouant sur les textiles, on parlait tout à l'heure de banquettes, les gens qui aiment être, enfin on a quand même effectivement à Paris beaucoup de restaurants où on est assez vite entassés les uns sur les autres, donc le jouer avec des banquettes, des coussins, etc. Ça permet au-delà de ce qu'on va mettre sur les murs, effectivement d'étouffer aussi, d'éviter d'avoir un effet écho gigantesque. Après, les contraintes techniques seront plus apportées par Dorothée, mais je présume quand même que le textile fait partie des choses assez courantes, assez classiques, au-delà des contraintes plus techniques que l'on peut imaginer en amont.
Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur sur Celency pour décorer son restaurant?
Sur Celency, ben un peu, justement un peu de tout, quoi. C'est-à-dire, c'est effectivement ce que l'on appelle ce supplément d'âme. Alors on va pas être dans du mobilier extrêmement pratique, si ce n'est sur les tables et les chaises de bistrot, qui sont pour le coup les choses qu'on a toujours conçues, qui est du coup extrêmement robuste et qui est encore très utile aujourd'hui. Mais après, ça va être vraiment plutôt justement sur le travail de décoration et ce qu'on va pas pouvoir trouver par ailleurs. Donc Celency, c'est des pièces uniques et des pièces qui apportent effectivement un peu une histoire aussi au lieu, peut-être ouais, ce supplément d'âme.
Et Dorothée, est-ce que dans les restaurants, on peut utiliser du mobilier vintage, des chaises anciennes, ou est-ce qu'il faut du mobilier spécifique?
Ah ouais, non. On peut utiliser des choses anciennes. Moi, je l'ai toujours fait. Mon premier lieu, qui a 10 ans aujourd'hui, le Prescription, on avait chiné beaucoup de choses. La seule difficulté de chiner, c'est que les choses sont pas forcément remplaçables facilement. Et c'est vrai que je pense tous autant qu'on est archi, on n'a pas envie de s'occuper du SAV tout le temps. Donc la petite console s'est cassée, qu'est-ce qu'on met à la place et tout. Donc ça, c'est toujours, est-ce qu'il y a beaucoup de casse hein, dans les lieux publics. Mais oui, on en utilise beaucoup. Et puis après, c'est aussi notre métier, c'est-à-dire de se dire telle chaise, la manière dont elle a été faite, les emboîtements font qu'elle est fragile. Du coup, il faut pas l'utiliser dans un restaurant. Celle chaise en métal, va être plus résistante. C'est aussi d'essayer de trouver la bonne chaise qui va durer dans le temps. Parce que c'est vrai qu'on a acheté des trucs, beaucoup de choses qui ont été beaucoup cassées. Hélas, ouais.
Et quels sont tes conseils pour se bricoler un style personnel?
Oh là là.
Quand on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on commence son restaurant la première fois.
Je pense que un peu le truc de l'âme et tout à l'heure, je pense qu'il faut s'investir beaucoup personnellement dans les choses et que c'est assez global. Et comme dit Simone, il a son histoire avec sa famille qui lui donne telle envie. Et nous, c'est vrai que.
Pas.
Mais c'est vrai que nous, même encore aujourd'hui, avec je m'investis moi personnellement énormément dans les lieux. On est là sur tout le processus de la construction. On va acheter des pièces, on choisit tout. Et cette implication personnelle est hyper importante. Donc ça, c'est vraiment un conseil, c'est-à-dire de pas se dire que ça va être facile. Et il faut s'investir et mettre sa propre personnalité en avant, si c'est un nouveau restaurateur. Et puis écouter les lieux, quoi. Enfin, vraiment, moi, je crois vraiment à ça. Pas se dire tiens, c'est génial, j'ai récupéré ce lieu-là, j'ai complètement transformé. J'ai un immeuble art déco, je vais faire un truc complètement futuriste, ou dans un immeuble des années 70, essayer de faire de l'haussmannien. Enfin, ça marche pas. Je pense qu'il faut essayer de respecter le contexte dans lequel on est et s'adapter. Et surtout quand on fait des lieux de zéro, je pense qu'il faut essayer de capitaliser sur quelques éléments quand même qu'on peut avoir. On a tous le truc de la page blanche, quel que soit le métier. Donc, je pense qu'il faut essayer de se dire, OK, je suis dans quel quartier, qui habite ici, le lieu est à peu près de quel style, et commencer par là.
Est-ce qu'il y a des couleurs à éviter dans les lieux de restauration, des couleurs qui coupent l'appétit, par exemple?
Les couleurs froides, ouais, les couleurs chaudes, par exemple le rouge, c'est des couleurs qui donnent faim, qui excitent, qui marchent hyper bien avec la restauration. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours envie de le faire. Et c'est vrai que nous, de temps en temps, et Olivier de l'Expé Group est là, donc pouvoir le dire, mais parfois je fais des restaurants bleus, et ils me disent ah, non mais pas du tout, non mais bleu, laisse tomber, c'est impossible, ça coupe l'appétit, ça marche pas. On essaye quand même de changer sur les couleurs, mais il faut toujours contrebalancer avec des teintes chaudes parce que on le sait quand même qu'il faut se mettre dans un certain état d'esprit pour manger et qu'il y a des petits codes à respecter, ouais.
Simone, tu voulais toi t'aimes quelle couleur?
Moi j'aime les blancs. Blanc, bleu, vert, kaki, je sais pas. J'aime pas les roses. Mais c'est mon...
Ça te coupe l'appétit.
Désolé qu'il y ait un restaurant rose ou quoi.
Théo, Septime date de 2012 et reste encore super actuel. 2011. 2012 11. Ah, 2011, pardon. j'ai pas vérifié. Et reste encore très actuel. Comment vous vous y prenez pour pas être démodé? 8 ans après, pardon.
Au début, faut se débrouiller pour se projeter un peu, quoi. Un restaurant, c'est généralement des emprunts assez longs, 5-7 voire plus, au minimum 7 ans. Faut se dire, ok, dans 7 ans, bon, ok, on peut refaire les peintures, mais globalement, faut l'imaginer encore dans la durée. En ce qui concerne Septime, nous, ce qui collait, pour en revenir à la première question, ce qui collait pas mal quand même à la cuisine et à tout ce qu'on fait très végétal et très naturel, c'était des teintes comme ça. Donc c'était des aplats de plâtre un peu bosselés par un mauvais maçon. C'était du bois, c'était de la pierre, c'est des trucs un peu atemporels, quoi, des matières. Beaucoup de récup aussi par souci économique. Mais pas que, parce que ça ramène du vécu et une histoire. Donc plutôt des teintes douces, quoi. On est plutôt dans les teintes douces, non. Pas trop de... Enfin, je dis ça n'importe quoi. Chez Clamato, c'est tout vert.
Et le côté vintage, c'est important. Enfin, tu disais que c'est pour le côté budget, ça compte, mais aussi le côté environnemental. Ou pas.
Ouais, alors, oui, bien sûr. C'est de la récup, c'est du second hand, c'est du upcycling. C'est que des mots anglais, ça. Mais non, au-delà de ça, c'est une question. Enfin, au-delà de ça, ça nous arrange bien parce que c'est bien d'être durable. Mais c'est une question de goût, je crois aussi, vraiment pour nous, quoi. Donc, il y a tellement de choses qui ont été faites déjà sublimes que acheter du neuf, enfin, toutes les décos des restos, c'est que du, à part une pièce ou un élément moderne, enfin contemporain, qui va nous toucher, mais sinon c'est énormément de, enfin tout est chiné, quoi.
Et qui chine?
Essentiellement moi. mais sinon, mais on valide toujours ensemble. C'est faut être plusieurs quand même. Faut un contre-pouvoir à chaque fois pour dire non là tu vas trop loin, non là tu déconnes complètement. Ouais, sur site, en voyageant, en boutique, moi j'aime beaucoup ça, donc c'est un
dans
truc.
Le perche.
dans le perche, c'est dément. C'est, ouais. C'est... Bah ouais, c'est dément, c'est des routes de brocante de 2000 mètres carrés, donc il manque, mais c'est exactement ce que tu disais, nous on a découvert l'hôtellerie, et c'est-à-dire qu'on, c'est soit volé, soit cassé. Mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on passe, je passe mes week-ends à remplacer des pièces, mais c'est fou. À ce point-là, c'est fou. Donc, on fait brocante sur brocante. Ok, il faut trouver un lot de petites cuillères, un lot de tasses, un lot de trucs pour le petit déjeuner, un truc, une console, une table supplémentaire. Ils ont cassé la table. Enfin, donc, c'est chouette.
Faut prévoir une pièce pour stocker les meubles d'avance.
Ah, bah, il y a un hangar.
Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il faut changer petit à petit ou tous les 7 ans changer sa décoration?
Non, moi j'achète tout le temps. Enfin, coup de cœur et tout le temps, quoi. En gros, on trouvera toujours un endroit où le placer, un nouveau projet. On ne pense pas à un truc. Enfin, c'est un peu du tous les jours, quoi. Je me dis pas, tiens, pendant 2 jours, je vais faire de la déco. Et je vais dans les restos et je... Non, c'est un peu tout le temps, tous les jours, quoi.
Et les restaurants, ils ont évolué au fur et à mesure? Enfin, vous voyez, par petites touches?
Ouais, mais pas vraiment, en fait. Non, mais c'est...
Ça se voit pas. Enfin, c'est des
ça se voit pas vraiment. Ouais. On n'est pas trop du genre à changer, quoi. Le problème du bruit, ça a été un gros sujet. On n'a pas voulu mettre de rideaux. On n'a pas voulu mettre les panneaux dégueulasses là au plafond ou les trucs.
Non, enfin, sous les tables.
Les gens qui ont ça, même.
La mousse, moi, sous vraiment, les tables.
Ah non, t'as ça toi? Non, je sais pas, mais moi ça me fout le bourdon, les trucs de salle de conférence là.
Vous avez fait comment?
On a changé le plafond, on a fait le plafond intégralement avec la teinte de la peinture existante. Donc on a, c'est avec... ce qui était pas vraiment plus cher, mais on a descendu le plafond de, je sais plus si c'est 5000 ou 2 centimètres avec une toile tendue, et du coup on voit rien, donc je me sens mieux.
Il y a eu la mode de l'industriel, le look récup, le look nordique, les murs grattés. C'est quoi les prochaines tendances, Charlotte, à Paris?
C'est toujours difficile de répondre à cette question, puisque nous, en tout cas, ce que l'on prône et ce que l'on met en avant, c'est plutôt l'idée d'avoir des identités fortes et de ne pas suivre justement des courants, des tendances, mais plutôt essayer d'incarner des lieux qui soient les plus différenciants possibles. Et je pense que d'ailleurs, on le voit de plus en plus. Il y a de moins, enfin, on a moins l'histoire d'un copier-coller, d'une tendance purement scandie ou purement industrielle, etc. Il y a un peu plus d'audace aussi dans des, comme le disait Dorothée, il y a aussi plus, je pense que les restaurateurs font de plus en plus aussi appel, soit le gèrent eux-mêmes, soit font de plus en plus appel à des archis d'intérieur, etc., pour apporter une touche un peu dingue aussi à un lieu. Et je pense qu'il y a un peu plus d'audace, du coup. Donc voilà, du coup, je dirais pas qu'il y a une tendance globale, et j'espère qu'il n'y en aura pas non plus dans les années à venir, si ce n'est continuer à chiner et à apporter des pièces qui sont anciennes pour le coup. Nous, on croit beaucoup aussi dans la démarche environnementale, ou en tout cas la préoccupation environnementale dans la décoration et l'habillage de son restaurant. Voilà, je pense que c'est la seule chose qui va sans doute perdurer, c'est l'accès à ces pièces de seconde main qui par touche ou en total look, peu importe, apportent effectivement une âme à ces lieux.
Et comme t'as accès aux chiffres du site, est-ce que tu vois quand même des tendances de mobilier arriver pour l'année prochaine?
Je pense qu'on voit de plus en plus de, alors l'organique au sens à la fois ce qu'on va avoir dans l'assiette, mais aussi ce qu'on va retrouver dans la décoration de son lieu, du retour à des formes naturelles, au végétal. On voit beaucoup une tendance florale, alors à la fois sur les luminaires, mais sur dans les miroirs, on va avoir beaucoup de formes organiques ou des choses qui sont pas, on sort du pur géométrique et du très droit, du très rangé, etc. Il y a un côté un peu plus fou, un peu plus naturel, un peu plus qui émerge, qu'on retrouve aussi dans des pièces que nos partenaires chinent sur le site. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui plaît de plus en plus, et ce qui répond visiblement aussi aux tendances de ce qu'on peut retrouver dans l'assiette, avec un retour, je vais pas dire au végétalisme, hein, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a quand même aussi une tendance de fond à des choses plus naturelles.
Simonet, oui. T'as envie de quoi, toi, dans les années à venir? Dans les mois à venir,
qu'est-ce que j'ai envie?
Sens, ouais, non.
Ah, comme tendance.
Au niveau déco, tu sens que t'es.
Moi, j'ai envie de paix, mais non. Et tendance, je sais pas. Moi, j'ai peur qu'on est rentré dans un tunnel noir du copier-coller, mais c'est un peu le problème de la mode. Donc, on se retrouve effectivement à avoir des lieux qui ressemblent beaucoup. Donc, il faut acheter chez Celancy, je vous dis ça. Non, j'ai essayé d'acheter un lustre. Je vous raconte une histoire parce que ça, c'est plus intéressant. J'ai essayé d'acheter un lustre. En fait, ils me les ont chopé. J'étais hyper vénère quand je l'ai découvert. J'avais quasiment bloqué. On m'a mis dans la wishlist. Donc.
Mais qui, ils te l'ont chopé?
Quelqu'un.
Ah, tu sais pas, on a compris.
Quelqu'un, parce qu'il faudrait
appeler. Quelqu'un l'a acheté avant toi.
J'avais trouvé, il était beau, et je voulais. En fait, c'est une grosse faiblesse, comme ça, quand si quelqu'un y reviendra au restant, il verra un autre lustre. Il est beau, mais il est pas mal placé. Donc, il est tout petit et j'aimerais bien un truc plus grand. Donc, si vous trouvez, madame. Non, mais je pense que la tendance, je sais pas. Je pense que comme tous les modes, comme tous les moments, on reviendra à quelque chose d'avant. Donc, je pense qu'elle se trompera pas si ce sera pas un truc totalement hippie ou un peu pas très beau. C'est possible, ouais. De mélanger plein de choses et donc de vouloir surprendre, parce que la cuisine, c'est ça. L'art, c'est ça. La mode, c'est ça. Ouais, on va sûrement tomber dans un truc à la con, et après on va kiffer, et après il va nous fatiguer, et après on va revenir aux ces petits maracines, tu vois. Non, mais c'est ce qui nous accompagne, la simplicité. Donc, je pense qu'on reviendra toujours à ça. Après, la créativité nous permet de faire des choses entre temps. Mais, ouais.
T'es où?
On s'habille toujours en noir, on s'habille toujours en blanc, en bleu. Et des fois, on a des couleurs, mais c'est vrai que quand on veut pas louper, on s'habille avec
trois couleurs. On évite le rose.
Ah ouais, sûrement, ouais. Non, mais il y a des roses très beaux. Ça, c'est beau, par exemple. Mais si vous regardez les roses que je vous parle, c'est pas le même rose.
Théo, toi, tu sens que tes envies, elles évoluent en décoration?
Oui, ça évolue tous les jours. Après, finalement, ça évolue pour retomber sur le truc de départ. C'est souvent ça, comme ça que ça marche. Mais non, moi, je pense qu'il va y a beaucoup d'humains derrière tout là maintenant. Donc beaucoup d'artisanat, beaucoup de d'organique, de défauts dans les objets, de trucs un peu plus habités. Je vois bien ça. Je suis bien branché années 70 là, un peu. Un peu kitsch aussi, un peu mauvais goût.
Orange.
Ouais, non.
Pas encore.
Non, ouais, post-68, là, un truc. Ouais. Une vieille céramique. Ou non, mais en gros, de là où il y a l'homme derrière, quoi. Que ce soit des céramiques faites à la main, que ce soit des imperfections, des trucs, un truc habité, quoi. Pas lisse.
Dorothée, tu vois les demandes des clients évoluer? Et toi-même, tu as peut-être des envies aussi.
De quels clients, les restaurateurs?
Les restaurateurs. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement?
Non. Dans le brief, non.
Ouais,
non, pas particulièrement. Ils nous font assez confiance. Après, la restauration évolue. Après, ça va être un autre sujet. Mais elle est en train de beaucoup changer. Et du coup, notre métier change aussi sur les budgets, sur la manière dont on construit les lieux. On a aussi le gros problème de la longévité des lieux. Enfin, on vous en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que les gens veulent tout le temps de la nouveauté et en même temps, le monde fait en sorte qu'il faut qu'on garde les lieux le plus longtemps possible. Donc, un paradoxe permanent, nous, de faire des mini-lifting pour entretenir les lieux, mais de pas apporter de la nouveauté tous les 3-4 ans, hein, parce que les cycles de vie des lieux raccourcissent de plus en plus. Donc, avant, on était sur 7 ans, maintenant, c'est passé à 5 et c'est en train de baisser. Donc c'est aussi nous de pas céder à ça et de dire bah non, on continue avec notre truc, on essaie de tenir 7-10 ans si on peut. Et du coup, d'avoir des décorations peut-être un peu moins marquées aussi en termes de style, un peu moins démodables, d'essayer d'aller sur des choses de fond et avoir des petites pièces qu'on peut remplacer, des petites couleurs qu'on peut changer. Mais c'est de faire tenir les lieux, c'est le gros challenge de notre métier. Et pour répondre à ta question, c'est une demande aussi des restaurateurs, mais ça depuis le début. Et par économie et par sens. Hein. Je pense que ça n'a aucun sens de prendre un lieu, de le jeter à la poubelle tous les 5 ans pour recommencer.
Et quand tu dis que les budgets sont pas les mêmes, c'est quoi? Les budgets sont plus élevés pour vous ou moins élevés qu'avant?
Moins élevés, je pense.
Ouais.
Okay. Pour faire des choses encore plus waouh.
Non, mais c'est difficile la restauration. Les gens ont énormément d'attentes et dépensent de moins en moins d'argent dans leur repas. Donc, forcément, à un moment, le pain est fait maison, tout est fait maison. On n'a que des petits artisans qui nous font des petits meubles à la main. Ça coûte de l'argent, hein. Et il faut bien qu'on fasse un peu des économies quelque part. Donc, oui.
Merci à Charlotte, Simonet, Dorothée, Théo.
Merci
à vous toutes et à tous d'être venus. Vous venez d'écouter le 11e épisode de la saison 3 avec Charlotte Cadet, Théo Pouria, Dorothée Mélisson et Simonet Tondo. Pour retrouver leur site et ou coordonnées, rendez-vous dans la description de l'épisode. Dans les précédentes saisons d'Apoil, vous pouvez retrouver entre autres un épisode dédié à Simonet Tondo et d'autres histoires de chefs sensibles à l'environnement décoratif. Rendez-vous sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Pour ceux qui découvrent le podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été réalisé par Studio Ochenta, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.